Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour et bonjour à toutes et à tous.
Avant d'entrer dans la présentation de votre ouvrage, je voudrais que l'on évoque trois pages de votre livre, sont entre la page 173 et le début de la 176, vous voyez à quoi je fais référence. Vous avez intitulé ces trois pages « À mon père ». Alors, comme tous les gens de ma génération, étudiants au milieu des années 70, en Provence, comme disent certains Parisiens avec cette pointe de mépris qui les caractérise, j'ai découvert par ces écrits un de ce qu'on appelle les nouveaux philosophes de l'époque, selon l'appellation d'origine. Selon moi, c'était le plus stimulant intellectuellement, le plus tranchant aussi, André Glucksmann, auteur d'un livre absolument explosif, « La cuisinière et le mangeur d'hommes », publié au Seuil en juin 1975. Pourquoi, dans un texte très pudique, très personnel, à la fin de votre livre, avoir remercié votre père, vous dédicacez aussi votre livre à lui, est-ce que c'est parce qu'il a été un des premiers à se confronter réellement à Poutine, en particulier en soutenant les Tchétchènes qui mouraient déjà sous les bombes de Russes en Tchétchénie?
Alors déjà, moi je suis quelqu'un généralement extrêmement pudique et depuis la mort de mon père, j'avais fait aucun texte public, j'avais jamais abordé la question parce que je suis pas du tout partie prenante d'une société du déballage. Et en écrivant ce livre, mais déjà en travaillant à la tête de la commission spéciale sur les ingérences étrangères du Parlement européen, j'ai eu sa figure tout le temps en tête, parce que moi, j'étais ado, j'ai grandi avec un homme qui a consacré les 15 dernières années de sa vie à défendre une cause que personne ne voulait défendre, à essayer d'alerter, à frapper à toutes les portes pour un peuple dont tout le monde se fichait, les Tchétchènes. Et c'était le tout début du règne de Vladimir Poutine. C'était la deuxième guerre de Tchétchénie qui a permis l'installation du régime poutinien. Et on parle d'une guerre où il y a eu plus de 100 000 morts sur une population d'un million d'habitants, des techniques proprement terroristes de la part de l'armée russe, des civils qu'on encerclait d'une corde pour créer ce qu'on appelait des fagots humains et au milieu desquels on balançait des grenades, tout ça en rigolant très fort. Et j'ai vu cet homme, à la fin de sa vie, qui, même malade, continuait à aller sur place clandestinement, à essayer d'alerter les dirigeants européens, à essayer d'alerter l'opinion publique européenne, à essayer d'alerter ses collègues intellectuels, et qui, finalement, a fini par sacrifier sa santé, sa réputation aussi, puisque Glucksmann et ses Tchétchènes, c'était devenu une sorte de blague dans le tout Paris dont vous parlez, qui méprise la province. Et c'était devenu une sorte de combat de sa vie. Et il essayait de dire aux Français, aux Européens, aux dirigeants, que ce n'était pas simplement les Tchétchènes l'enjeu, que c'était l'installation à Moscou d'un régime tyrannique qui faisait de la guerre le cœur même de son existence, et que cela aurait des conséquences pour nous, et que donc il ne s'agissait pas simplement de se battre pour défendre les Tchétchènes, il s'agissait de penser à ce que serait l'Europe si on laissait s'installer un tel régime et si on lui cédait des pans entiers de nos principes et de nos intérêts stratégiques. Et j'ai vu sa solitude. Et je pense que cette solitude, elle a été fondamentale pour moi. Pourquoi ? D'abord parce que j'ai appris qu'il fallait parfois accepter d'être seul pour défendre une cause qui vous semble juste et qu'il y avait un prix à payer pour cela. Mais aussi parce que j'ai vu à quel point on pouvait être un intellectuel connu, avoir une audience et en même temps parler dans le vent. Et que c'est aussi ce que j'avais en tête quand j'ai décidé d'entrer en politique, comme on dit, même si c'est d'une manière assez spéciale, c'est que je pense que pour briser la surdité des institutions, il faut pénétrer ces institutions. Et donc, cette solitude de mon père dans la défense des Tchétchènes a guidé en un sens mon existence sans que je le sache ou sans que ce soit nécessairement conscient. Et quand j'écrivais ce livre, il me semblait évident que c'était le moment pour lui rendre hommage, pour dire qu'il avait eu raison. Et que tous ces gens qui vous expliquent aujourd'hui que Poutine a changé, c'est juste qu'ils se sont plantés pendant 20 ans sur Poutine, mais parce qu'il y a des gens qui disaient qui était Poutine avant, dont mon père, mais dont Anna Politkovskaya, dont beaucoup d'autres.
C'est d'elle dont je voudrais qu'on parle maintenant. Oui, oui, voilà. Je vous laisse finir.
Et donc, voilà, c'était un des rares moments où je me suis dit que voilà, c'était pas obscène de parler de quelque chose de personnel, puisque cette chose personnelle rencontrait l'histoire, si vous voulez. Donc, je me suis sorti de ma nature qui est profondément protestante là-dessus et très rigoureuse pour livrer des pages plus personnelles que le reste du livre qui est beaucoup plus.
Alors, le livre commence aussi dans une dimension personnelle. Là, il s'agit d'une autre personne. Vous avez prononcé son nom à l'instant, Raphaël. Anna Politkovskaya, donc grande journaliste, militante des droits de l'homme, donc assassinée en 2006. Pas n'importe quel jour, hein, par les sbires de Poutine, parce que c'est le 7 octobre 2006 et c'est l'anniversaire de Poutine. Donc c'est une sorte de cadeau d'anniversaire. On voit jusqu'où peut aller, j'allais dire, l'indécence. La citation d'Anna Politkovskaya, au début de votre introduction, intitulée « L'introduction, l'Europe en guerre », dit ceci. Ça rejoint exactement ce que disait votre papa. « Poutine fera la guerre. Je ne sais pas quand, mais il la fera. » Et les Européens seront alors surpris de découvrir que cette guerre les vise aussi. Alors, c'est pas un extrait d'une interview de Politkovskaya, c'est une conversation que vous avez avec elle un an avant sa mort à Paris en 2005. Dites-nous quand même qui était Politkovskaya et ce qu'elle a aussi représenté pour vous, quand même.
Anna Politkovskaya, c'est sans doute la personne la plus courageuse et la plus lucide que j'ai croisée dans ma vie. Je ne suis pas dans le genre à dire j'ai des modèles, mais si j'avais un modèle, ce serait vraiment elle. Et cette conversation dont vous parlez et qui commence le livre, je l'ai eue avec elle au cours d'un dîner, alors que je rentrais de Kiev. Et j'avais filmé la révolution orange, donc la première des révolutions démocratiques contemporaines ukrainiennes, qui était déjà un soulèvement pour les principes européens et contre la mainmise de Poutine sur l'espace post-soviétique. Et moi, j'avais suivi ces jeunes avec ma caméra. Ils avaient mon âge à l'époque. C'était incroyable, quoi. Une sorte d'explosion de liberté, de l'humour, de la danse, des centaines de milliers de gens qui occupent l'espace au cœur de la capitale ukrainienne. Et ça se termine bien, ils gagnent. Les élections frauduleuses sont invalidées et des élections honnêtes sont organisées. Et je suis rentré plein d'optimisme, moi, plein d'enthousiasme. Et donc je vois Anna et je lui raconte l'ensemble de mon expérience en Ukraine. Et à un moment, elle m'interrompt et elle me dit « C'est vraiment extraordinaire ce que tu racontes, mais sache que Poutine fera la guerre. » Et fera la guerre en Ukraine, mais plus que simplement en Ukraine, il fera la guerre contre vous. Et je me souviens qu'à l'époque, pourtant moi je connaissais le régime de Poutine, j'avais vécu dans les histoires tchétchènes, j'avais des amis en Russie qui voyaient la dictature qui s'installait. Je suivais la région, j'étais un des plus informés. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, ça y est, elle est devenue une dissidente. C'est-à-dire que elle voit le monde en noir, elle est extrêmement pessimiste, ce qui est normal quand on est face à une machine qui vous broie, qui vous menace, quand on simule des exécutions contre vous, quand vous êtes constamment arrêté, harcelé, menacé. Mais j'avais mis à distance sa parole, comme si c'était, c'était la parole de quelqu'un qui est la victime de Poutine. Et je me souviens que cette phrase que j'ai repoussée est revenu mais vraiment comme un boomerang en 2008 quand j'étais encore avec ma caméra et que d'ailleurs je l'ai
en Géorgie
que je l'ai laissé tomber et que c'était le moment où je me suis dit j'arrête de faire des films, ça sert à rien, personne ne veut écouter. Je me souviens, c'était une nuit au cœur de la Géorgie, dans un barrage militaire russe, quand les Russes ont envahi la Géorgie en août 2008. Et j'étais avec un photographe de Libération et un journaliste de Radio France, et on est resté coincé des heures à un barrage militaire. On voyait les Kontratniks, qui c'était les mercenaires de Poutine, avaient reconnaissables au brassard blanc qu'ils avaient autour du bras. Et ils pillaient, mais tout. C'est-à-dire, j'ai même vu des gens transporter des chiottes, des toilettes, quoi, comme ça, qu'ils partaient avec les toilettes. Donc, vraiment, c'était le chaos total. Et on était allongés. On a failli, d'ailleurs, se faire tirer dessus parce que le photographe a fait une photo d'un des pillards. Et à un moment, j'ai vu le général Borisov, qui était le chef de la 58e armée russe, c'est-à-dire l'armée du Sud, et donc l'armée d'invasion de la Géorgie. Et il est venu nous parler. Et déjà, il nous a dit, bon, alors je suis désolé, là, c'est...
C'est dans le livre. C'est
le langage de général russe, quoi.
C'est dans le livre, oui.
Il est arrivé vers nous et il nous a dit, Galyuboy, ça veut dire les bleus en argot, ce qui veut dire tas de PD, en gros, c'est ça, hein, la traduction dure. Rentrez chez vous, parce que ici, c'est pas l'Europe, c'est la Russie. Et on était au cœur de la Géorgie. Hein. Et on a engagé la conversation sur des bases un peu tremblantes, quoi. on va pas se mentir. Et là, il nous a dit, mais de toute façon, moi, je dis, mais jusqu'où vous allez aller? Et il nous répond, mais nous, on ira partout où on a déjà été. Alors, je dis, OK, c'est sympa, mais partout où vous avez déjà été, c'est quoi? C'est Paris, c'est... Et à ce moment-là, je me suis rappelé la phrase de Anna et la manière dont je l'avais mise à distance. Et je me suis dit, OK, tu mets plus jamais à distance de cette manière les phrases des lanceurs d'alerte, en fait. Et la faute principale des dirigeants européens pendant 20 ans, c'est d'avoir méprisé ces voix. Parce que c'est pas vrai que c'était imprévisible. C'est pas vrai que c'était un accès de folie lié à l'isolement du tsar pendant le Covid, enfin toutes ces explications psychologiques complètement idiotes, c'était en germe depuis le début, c'était en acte dans la région depuis longtemps, et c'était prévu, alerté par des Russes, par des Ukrainiens, par des Géorgiens, mais aussi par des Baltes, des membres de l'Union européenne, des ministres, des textes, et c'était surtout, c'était dit par les Russes eux-mêmes, par les dirigeants russes eux-mêmes. Alors, et simplement, personne n'a fait l'effort ni de les lire, ni de les croire. Et donc là, ce que j'ai voulu expliquer, c'est que, à travers l'exemple de ma propre incrédulité, mais qui a duré moins longtemps que celle de M. Sarkozy, Macron ou Mme Merkel, c'est de dire à quel point, finalement, nous avons été aveugle quant à la nature véritable du régime de Poutine et aveugle quant à notre implication dans cette histoire, puisque nous étions, nous aussi, des cibles de ce régime.
Alors, c'est ce qui vous fait écrire encore au début du livre que le principal reproche... D'abord, vous dites, mon livre est placé sous le sceau ou sous le signe du réalisme. Je tiens pas un propos d'idéaliste, un propos réaliste. Et vous dites, si on peut faire un reproche aux dirigeants européens ou aux élites européennes, ce n'est pas d'avoir été trop cynique, c'est d'avoir été trop légère. Alors, je donne la structure de votre ouvrage. Il y a trois grandes parties. La première, c'est vous l'avez appelé la cité corrompue. La deuxième, c'est une guerre, celle qui est livrée aux démocraties. Et la troisième, c'est sur la résistance. Dans la première partie, sur les mécanismes de la corruption au sens large, alors c'est tout à fait remarquable parce que vous déconstruisez en fait toute une histoire, en particulier ce que vous expliquez, c'est-à-dire en fait cette légèreté à l'égard de Poutine et du régime. Il y a un certain nombre de personnages, certains sont pas connus, d'autres ont un peu plus pris la lumière ces derniers temps. Je pense à Sourkov, on aura l'occasion d'en parler. Il y a un premier personnage qui s'appelle Matthias Warnig. C'est un personnage qui est tout à fait étonnant. Il a donné très peu d'interviews. Vous citez une interview dans la presse occidentale, dans un quotidien autrichien qui s'appelle Die Presse, et il dit « Je n'aime ni être aux premières loges, ni faire la une des journaux. Cela s'explique sans doute par ma biographie. » Ça, c'est dans une note infrapaginale dans votre livre. C'est quoi la biographie? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, la biographie de Warnig, qui, encore une fois, on comprend que c'est un personnage assez stratégique dans le dispositif Poutine.
Alors, juste sur la première partie de votre question, c'est un livre réaliste et je suis réaliste. Ceux qui sont iréniques, idéalistes, ceux qui vivent dans un univers de bisounours sont précisément ceux qui se sont dit réalistes pendant 20 ans et qui ont considéré Vladimir Poutine comme un partenaire et qui ont considéré que délocaliser nos entreprises stratégiques en Chine était une riche idée. Ces gens-là ne sont pas réalistes. Et donc, ce que je pense, c'est qu'il faut reprendre en main ce terme de réalisme. Et que moi, ce livre, je ne l'ai pas écrit en tant que moraliste. Je me fiche de savoir si Gerhard Schröder dort bien la nuit, si François Fillon va à l'église se confesser. C'est leur histoire, ce n'est pas la mienne. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le salut des âmes, c'est le salut de nos cités, de nos nations, de notre espace public. Et donc, c'est un livre réaliste et politique, pas un livre de moraliste ou d'idéaliste. Et au cours de 3 ans de travaux, d'enquête à la tête de la commission spéciale sur les ingérences étrangères, que j'ai voulu créer dès le premier jour du mandat de parlementaire. Je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, je me souviens, c'était à Strasbourg, premier jour du mandat. Je suis arrivé, j'ai dit, il faut une commission sur les ingérences étrangères dans nos processus démocratiques. Là, les gens ont un peu regardé, mais de quoi ils nous parlent? Et j'ai expliqué que la première des missions de législateurs, de représentants des citoyens, c'est de protéger la démocratie dont ils ont hérité. Et que c'est insupportable, cet état d'indolence et de surprise, à chaque fois qu'on voit la main d'un régime étranger derrière des élections, derrière des campagnes de désinformation, derrière des actes de corruption. Et que, au fond, cette faiblesse, cette indolence, cette inconscience condamnent nos démocraties. Et que donc, il faut désormais se pencher sérieusement sur la question. Et donc, ça fait 3 ans qu'on enquête et qu'on dissèque les réseaux de corruption, d'ingérence, d'influence qui s'exercent sur nos démocraties. Et au cours de nos travaux, bien sûr, nous avons croisé des figures connues, l'ancien chancelier allemand Schröder que j'ai mentionné, ou l'ancien premier ministre français François Fillon, mais on pourrait en citer d'autres, cette fois-ci pas sur la Russie, mais sur la Chine, monsieur Raffarin. Et j'ai aussi croisé des figures totalement inconnues et qui ont eu un rôle essentiel dans notre histoire, dans l'histoire de notre continent, sans qu'on sache qui ils sont. Et au bout d'un moment, à force de croiser ce nom, Matthias Warnig, je me suis arrêté dessus. Je me suis dit, mais qui c'est ce Matthias Warnig que je retrouve à chaque étape de nos enquêtes? Eh bien, Matthias Warnig, qui est effectivement très discret sur sa biographie, et qui dit que sa biographie explique sa discrétion, Matthias Warnig, c'est un élément fondamental de la plus grande entreprise d'ingérence dans nos démocraties de toute cette fin du 20e et début du 21e siècle. C'est un espion de la Stasi, donc de la police politique est-allemande, qui est envoyé par la RDA à l'époque, espionner les principaux groupes capitalistes ouest-allemands. Donc il espionne tous les grands groupes allemands. Et arrive la chute du mur. Il est un excellent espion, super bien noté. Ses rapports sont fantastiques, y compris un qui aura une importance pour la suite, qui est sur les failles du système énergétique allemand. Et à la chute du mur de Berlin, il n'entre pas en dépression parce que l'idéologie communiste est finie. Il va voir les grands groupes capitalistes qu'il a espionnés et il leur dit « Maintenant, je peux travailler pour vous. » Et donc, les grands groupes capitalistes allemands se disent extrêmement intéressants comme option. Il va nous servir grandement. Et donc, Matthias Warnig est embauché par l'une des principales banques allemandes, qui est la Dresdner Bank, avec une mission qui est la Russie. Il faut prendre pied sur le marché russe et ses connexions avec le KGB vont nous servir. Il est envoyé, il ouvre la première banque occidentale en Russie, en URSS, enfin, c'était la chute de l'URSS, à Saint-Pétersbourg. Il installe la Dresdner Bank dans les anciens locaux de l'ambassade allemande auprès du tsar. Et il va voir un homme qui va devenir très important, qui s'appelle Vladimir Poutine, et qui gère l'ensemble des investissements occidentaux à Saint-Pétersbourg pour la mairie. Ils deviennent extrêmement proches. Matthias Warnig devient la porte d'entrée pour tous les capitalistes allemands vers la Russie. Et ils installent, à l'époque, là, c'est le Far West, hein, Saint-Pétersbourg. Il y a des gangs qui s'entretuent dans la rue, et il faut des protections pour faire du business. Et donc, avec Poutine, ils installent un système de protection pour les investisseurs européens, et en particulier allemands. Les relations deviennent tellement proches avec Poutine que quand celui-ci arrive au pouvoir, eh bien, il va confier à Warnig la mission inverse. Non plus être la porte d'entrée des investisseurs occidentaux vers la Russie, mais être le chef d'orchestre des investissements russes en Europe. Et Warnig, il est membre des boards de toutes les grandes entreprises du système Poutine. On le retrouve à tous les niveaux, dans l'énergie, dans la banque, dans l'aluminium, dans la défense. Et donc, en fait, il devient le pion essentiel, le chef d'orchestre pour Poutine, des ingérences, en Allemagne en particulier, et en Europe en général. C'est lui qui est le véritable père d'un tube dont vous avez forcément entendu parler, qui s'appelle Nord Stream, qui est le plus grand gazoduc sous-marin du monde, qui relie la Russie à l'Allemagne. Et c'est lui qui va, avec Gerhard Schröder, planifier, et Poutine, à trois, et vraiment à trois, seulement à trois, planifier la construction de Nord Stream et du coup, le basculement de l'Allemagne dans la dépendance énergétique à l'égard du système russe. Et c'est fascinant. Chaque étape de cette histoire est fascinante. Parce que vous avez un chancelier allemand, Gerhard Schröder, qui va acter ce basculement stratégique qui concerne l'ensemble de l'Europe, sans un mot de consultation avec ses voisins, sans un mot de consultation avec Bruxelles. Donc l'Union européenne n'existe absolument plus là. Et qui, 10 jours avant une défaite certaine aux élections contre la CDU de Merkel, va lancer officiellement en tant que chancelier Nord Stream. C'est une grande cérémonie en pleine campagne électorale. La campagne s'arrête. Poutine vient à Berlin. Et avec Warnig, Poutine et Schröder, il lance Nord Stream. Et quelques semaines seulement après sa défaite aux élections, ce chancelier qui a acté cela va ensuite travailler pour Gazprom et pour Nord Stream. Et donc, il devient chef du board de Nord Stream et son PDG est, évidemment, Matthias Warnig. Et les deux vont faire un lobbying fascinant en Allemagne, garantir la continuité sous Merkel de la politique énergétique, arriver à obtenir du gouvernement allemand que le gouvernement allemand vende, non pas simplement son indépendance énergétique, vendent ses stocks de gaz en Allemagne à Gazprom. C'est-à-dire que Gazprom gérait les stocks stratégiques allemands. Et si vous voulez savoir la conséquence que ça a, ça, c'est qu'au Parlement européen, le 25 février, au lendemain de l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, on se réunit et on dit « Ok, il faut un embargo sur les hydrocarbures ». Pour arrêter de financer cette guerre. Et là-dessus, le nouveau gouvernement allemand, et en particulier les ministres écolos qui n'avaient rien à voir avec cette politique à laquelle ils s'opposaient, disent « Non, ça ne va pas être possible ». Et on demande pourquoi. Et ils nous expliquent. Ils disent « Mais on vient de découvrir que les stocks de gaz étaient vides ». Et donc, pendant les 6 mois qui précèdent la guerre, Gazprom a méthodiquement vidé les stocks de gaz allemands. Donc on en est à ce niveau-là d'inconscience qu'on confie un régime hostile qui est sur le point de déclencher la guerre en Europe, et qui d'ailleurs est déjà en guerre, puisque ça fait depuis 2014, la gestion de nos stocks de gaz dans nos pays.
Et vous dites que la conséquence va être financière, puisqu'il va falloir à peu près 6 mois pour prendre les vraies sanctions. Vous dites que c'est 800 millions d'euros par jour qui vont financer l'effort de guerre russe entre le 24 février 22 et le moment où finalement il va y avoir les vraies sanctions.
Oui, le résultat, c'est que au lendemain de l'invasion, alors même que nos gouvernements dénoncent cette invasion évidemment et prennent des sanctions à l'égard du régime de Vladimir Poutine, nos importations russes augmentent. Non pas simplement en valeur, puisque les prix de l'énergie explosent, mais aussi en quantité, parce qu'il faut remplir les stocks. Et donc, en fait, on a 6 mois où tout le monde s'étonne que l'économie russe ne s'effondre pas, malgré les sanctions drastiques qu'on prend. Bah, évidemment, parce que dans le même temps, on augmente nos importations. Et donc, on se retrouve avec ce chiffre délirant qui est monté jusqu'à 1 milliard au bout de 2 mois. De 800 millions d'euros par jour transférés dans les caisses du régime russe par les Européens pendant 6 mois. Et le coût de la guerre en Ukraine est estimé à 1 milliard d'euros par jour pour la Russie. Donc en fait, l'ensemble des coûts quasiment étaient couverts par nos importations. Et ça, c'est le résultat d'ingérence, de corruption, qui n'ont donné lieu à aucune commission d'enquête dans une démocratie pourtant exemplaire qu'est l'Allemagne, à aucune forme de révolte et à aucun questionnement. Et donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est retracer ces histoires pour essayer de comprendre non seulement les réseaux de la corruption, mais aussi les dysfonctionnements de nos démocraties, parce que c'est pas possible. En fait, on est obligé de créer ensuite une commission d'enquête au Bundestag, enfin, dès que ça sort, et ça n'a pas lieu. Et donc, il y a un mélange qui est fascinant de d'un côté de la corruption brute, parce que Schröder n'est pas un cas isolé, Warnig n'est pas un cas isolé, hein, c'est dans tous les pays européens et c'est dans tous les partis politiques. C'est pas juste l'extrême droite. L'extrême droite est clairement instrumentalisée par Poutine dans tous les pays européens. Mais par contre, au sein même des élites, au sein même des gouvernants et dans les partis les plus démocratiques, centristes, mainstream, on retrouve ces têtes de pont qui, eux, sont là vraiment, mais alors parce qu'ils sont mus par la cupidité. Et donc c'est un cocktail entre la corruption et l'incroyable naïveté et apathie des démocrates qui, eux, ne sont pas tous corrompus, mais qui laissent faire.
Ça, vous dites d'ailleurs que le problème n'était pas, par exemple, compte tenu de ce qu'on sait sur la Géorgie depuis 2008, le problème n'était pas le manque d'informations, mais l'absence de volonté de les prendre en compte. Les élites françaises, allemandes ou italiennes, c'est ce que vous venez de dire, n'avaient juste aucune intention de regarder la réalité en face. Et puis vous ajoutez, page suivante, c'est page 63, quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. Donc, Raphaël, vous venez de le dire, ce n'est pas simplement qu'une question, j'allais dire, basique de corruption, il y a aussi une véritable cécité psychique et une volonté de ne pas regarder la réalité en face. Comment vous l'expliquez, ça, cette hypnose, en quelque sorte?
Je pense que c'est d'abord lié à une question de volonté. On ne voulait pas voir. Et pourquoi on ne voulait pas voir? D'abord, je précise que les informations, elles étaient là. Parce qu'en fait, on a quand même des services de sécurité qui fonctionnent. Moi, j'ai vu des notes transmises par nos services de sécurité et qui alerte et qui explique. Et donc, quand par exemple, on a une question qui peut sembler futile, mais l'installation d'un centre orthodoxe à Paris,
c'est les grandes bulles.
Les grandes bulles. Mmh. Les services de sécurité disent attention, ça va être des stations d'écoute. Mais le président d'alors, Nicolas Sarkozy, décide de ne pas suivre les préconisations des services de sécurité. Et ça se retrouve partout. C'est pas le seul. Et donc, pour revenir à la question du réalisme, quand on préfère sa propre illusion à l'avis de ses services de sécurité, c'est compliqué de se prétendre réaliste. Et quand on explique, comme moi, qu'il faut prendre au sérieux les notes de la DGSI, c'est pas par idéalisme. A priori, c'est plutôt réaliste comme attitude, ça. Donc, il y a une volonté de ne pas voir. Pourquoi ? Parce que on a décrété en 1989 que c'était fini, que le monde désormais était en paix, que l'Europe était en paix et que l'histoire, dans sa dimension tragique, était finie. Et donc, toute voix, tout fait qui venait contredire cette illusion confortable était mis de côté, était évacué. Et ce déni de réalité, c'est un mécanisme extrêmement puissant. Poutine envahit la Géorgie, 2008. Qu'est-ce que fait l'Union européenne, les dirigeants européens ? Ils dépêchent sur place, les tanks russes ils sont au milieu d'un pays souverain. Ils dépêchent sur place une commission, la commission Tagliavini, qu'ils ont l'intelligence de faire présider par une diplomate suisse, avec une grande tradition d'engagement, hein, quand même. Cette commission va enquêter sur à qui la faute. Les tanks russes, ils sont au milieu de la Géorgie, mais à qui la faute? Et donc, elle va conclure, comme c'est comme une VAR au foot, quoi. Elle va conclure que les torts sont partagés, que certes, les Russes ont envahi la Géorgie, mais que les Géorgiens ont tiré les premiers coups de feu. Oui, effectivement, moi, je suis désolé, mais si y a des tanks qui arrivent en France, j'espère bien qu'on tirera sur les tanks qui arrivent en France. Donc, c'est pas les Polonais qui ont déclenché la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils ont répondu à l'invasion allemande en leur tirant dessus. À un moment, il faut quand même être un peu plus réaliste que ça. Et donc, on explique, bah non, mais c'est un problème compliqué. C'est bien plus compliqué, bien plus complexe que ce que vous croyez. En réalité, c'est une histoire très longue entre la Géorgie et la Russie. C'est très compliqué. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. 2014, annexion, la première annexion d'un territoire souverain en Europe.
La Crimée.
La Crimée. La première, c'est pas arrivé, c'est le tabou ultime de la sécurité européenne. Hein. C'est pas arrivé, ça n'existe pas depuis 1945. Et c'est ça qui maintient la paix sur notre continent, parce que sinon, on peut envahir son voisin pour choper des bouts de terre. Eh bien, une réaction mais ultra molle et une grande réflexion sur les Ukrainiens, sont-ils nationalistes, ne sont-ils pas nationalistes, le coup d'État de Maïdan, il y avait des gens avec des drapeaux nationalistes, Et donc à la fin, c'est quand même une histoire complexe, c'est bien plus complexe que ce que vous pensez, et finalement, bon, bah, les Ukrainiens sont pas tout blancs non plus. Les Russes, c'est sûr, vous les connaissez, ils sont compliqués. Et à la fin, circuler, il n'y a rien à voir.
Le sommet, si je puis dire, étant cet argument, disant Khrouchtchev a donné la Crimée à l'Ukraine un soir de beuverie, c'est pas aberrant que Poutine la récupère.
Oui, ou alors dans le Donbass, les gens parlent russe, et donc ça veut dire qu'ils sont majoritairement pro-russes, et donc c'est une guerre civile, c'est compliqué. Et donc, tout. Les arguments sont utilisés pour évacuer les faits, évacuer les alertes. Et ce mécanisme-là, il est pour moi fondamental dans le refus de voir. C'est « ne venez pas nous déranger ». Et il y a une phrase de Romain Gary, moi, de La promesse de l'aube. Donc déjà, l'ensemble du livre est, me suit depuis l'adolescence. Et si vous ne l'avez pas lu, je conseille absolument de lire La promesse de l'aube, qui est pour moi le plus grand champ sur ce qu'est la France, ce qu'est la République, ce qu'est la liberté, ce qu'est aussi l'amour pour une mère et l'amour d'une mère. Mais il y a une phrase de Gary dans La promesse de l'aube qui répond à une question que Gary se pose tout le temps. La question que Gary se pose tout le temps, c'est pourquoi les élites françaises n'ont-elles pas suivi massivement le général de Gaulle à Londres? Et ça, c'est vraiment sa structure, l'œuvre de Gary, sa réflexion. Et il se dit, est-ce que c'est parce qu'elles étaient pro-nazies ou violemment antisémites? Non. Pro-allemandes, non plus. Alors pourquoi? Pourquoi elles n'ont pas suivi de Gaulle? Parce qu'elles aimaient trop leurs meubles. Et je pense que cet amour des meubles, cette quête du confort...
Et trop sage aussi.
Et voilà, et il dit, elles avaient bu cette camomille empoisonnée qu'on appelle sagesse et qui enseigne la résignation et appelle condition, enfin je cite de tête, mais appelle condition humaine n'importe quel événement, en gros, qui devrait susciter sa révolte. Mais ces gens, c'est le sens qu'ils donnent à la sagesse, nos dirigeants. Finalement, la sagesse, c'est ce qui conduit à l'acceptation du fait accompli. C'est ce qui conduit à l'acceptation non seulement du calvaire des peuples qui voisinent le régime de Poutine ou des Syriens, mais c'est ce qui conduit aussi à l'acceptation des piétinements de notre souveraineté. Parce que moi, je veux bien, on parle de réalisme et on parle de souveraineté. Mais pensez, au moment où on se parle, là, il y a un commissariat secret de la République populaire de Chine en plein cœur de Paris. Tout le monde le sait. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et ça, c'est pas voir sa souveraineté piétinée. Au cœur de Londres, il y a les services russes qui empoisonnent M. Litvinenko au polonium. Ils laissent volontairement des traces radioactives à travers toute l'Europe, sur les stades de foot, dans des restaurants. Scotland Yard identifie M. Lugovoy comme étant le principal suspect et demande son extradition. M. Lugovoy est récompensé par Poutine en étant nommé ou élu, enfin c'est nommé en l'occurrence, à la Douma comme député. Il fête sa réélection en organisant une conférence de presse où il convie l'ensemble de la presse. Il est recherché par la police anglaise, hein, la justice anglaise. Et il organise une conférence de presse où il convie l'ensemble des journalistes européens. Et il a un t-shirt. Il a un t-shirt où il y a marqué Polonium. Et ça veut pas dire qu'il s'essuie les pieds sur notre souveraineté. Où est la réaction des souverainistes là? Où est la réaction des réalistes? Et c'est comme ça sur tellement de sujets que nous avons méthodiquement analysés avec cette commission. C'est stupéfiant. Moi, j'étais des fois, je me disais, réveille-toi, quoi. Enfin, c'est un cauchemar, c'est pas possible. On peut pas être dirigé par des gens qui ont à ce point pas de colonne vertébrale. Enfin, à un moment, il y a une réaction, non? Enfin, il y a un moment où on explique, écoute, ici c'est chez nous, hein, tu fais pas ça, on t'assassine pas au cœur de Berlin un opposant politique, ce qui est arrivé, et à chaque fois sans conséquence. Le gouvernement anglais se fait ainsi humilier. Et ensuite, quoi? Ben ensuite, non, rien. Ensuite, waouh, introduction à la Bourse de Londres en grande fanfare de Rosneft, de tout ça, les millions de livres qui tombent du ciel. C'est extraordinaire. Tout le monde veut aller à Chelsea faire des selfies avec King Abramovich. Voilà. Et donc, en fait, à un moment, cette indolence-là, elle devient coupable. Et c'est ce qu'on comprend tous instinctivement le 24 février 2022.
Alors surtout que face à cette indolence, on n'a pas le temps, mais il faudra que les lecteurs se plongent dedans. Vous déconstruisez, j'allais dire, cette logique de guerre hein, qui est celle de Poutine. Vous convoquez d'ailleurs, y compris les plus grands auteurs, hein, Dostoïevski qui écrit il y a 150 ans avec un personnage comme Stavrogin qui dit des choses. Vous évoquez Surkov, qui est donc celui qui a servi de modèle à Giorgio Diampoli pour le match du Kremlin. Vous évoquez aussi ce peut-être pour moi le plus grand auteur du goulag, sur le goulag, plus fort encore pour moi que Solzhenitsyn et Varlam Chalamov, puisque ces lettres de la Colima, c'est indépassable en termes de témoignage. Donc là, c'est essai sur la pègre, en quelque sorte.
C'est vraiment du crime. Hein.
Sur essai sur le crime, c'est la pègre dans les camps, dans les goulags de Chalamov. On va terminer, parce que votre livre est passionnant, y compris cette évocation d'Eschyle, quoi, hein, sur l'Orestie, quoi, hein, la naissance d'Athènes. Enfin, c'est très fort. Vous avez un ami qui s'appelle Giorgi, qui est un ancien communicant reconverti en directeur d'orphelinat à Kiev. Et il vous dit, lors d'une de vos rencontres avec lui l'été dernier, « Nous savons tous pourquoi nous existons désormais, à quoi nous servons, ce que nous faisons sur cette terre. Je crois que nous nous sommes trouvés en cessant de nous appartenir. » Et là, on aborde, ça sera une dernière question, cette réflexion de Zelensky, du président Zelensky, dans une vidéo au Parlement britannique, je crois que c'est 13 jours après l'invasion. Donc on est le 8 mars 22. Je précise qu'on est au 470e jour de guerre aujourd'hui, 9 juin, quand on enregistre là. La question que posent les Inski, c'est la question d'Hamlet. Hein. La question, il appelle ça, il dit, c'est la question shakespearienne. Au Parlement britannique, ça tombe bien. Voilà ce que dit Zelensky. Être ou ne pas être, c'est la vieille question shakespearienne. Pendant 13 jours, cette question a pu se poser. Mais maintenant, je peux vous donner une réponse ferme. C'est définitivement être. Alors, est-ce que vous pensez que l'Europe a répondu à cette question shakespearienne au moment où on se parle?
Je pense que nous sommes encore dans une réponse balbutiante. Nous hésitons. Moi, j'ai été plusieurs fois à Kiev et en Ukraine depuis le début, non pas de la guerre, puisqu'elle était là avant, mais de l'invasion totale de l'Ukraine. Et il y a un truc qui m'a fasciné à chaque fois, hein. C'est à quel point les gens étaient calmes, sereins, et à quel point chacun semblait être à sa place. Et Guillaume, vraiment, c'est un copain, un vieux copain, hein, et une personne qui était, enfin, qui avait la bougeotte, quoi, qui n'était pas vraiment serein dans son mode d'expression et dans sa relation au monde. Et là, tout d'un coup, je l'ai trouvé très ancré. Et c'était le cas de tous les gens que je connaissais, qui étaient vraiment d'horizons ultra différents. Et j'avais l'impression, comme ça, que chacun en Ukraine apportait sa propre réponse à la question shakespearienne, être ou ne pas être, qui disait être et trouver un sens à son existence là dans cette situation historique tragique qui était de servir finalement à la résistance collective. Et je me suis vraiment posé la question puisque c'était pas le cas avant en Ukraine, hein. Donc c'est vraiment la prise de conscience historique qui fait que chacun s'efface devant une offre collective. Et j'ai eu la même sensation à Taïwan, parce que j'ai présidé la première délégation officielle du Parlement européen à Taipei. Et bien sûr, tous les diplomates nous ont supplié de ne pas y aller, en gros. Mais on y a été, et c'était pareil, c'était très fascinant de voir dans un ministère à Taipei... ça ressemble à une AG étudiante ou à un concert de rock, quoi. C'est que des jeunes, mais ultra dynamiques qui sont là et qui sont super excités par le travail qu'ils font dans la fonction publique. Donc, à un moment, moi, je leur demande, quoi, mais pourquoi vous n'avez pas fondé un groupe de rock, enfin, je sais pas, ou une start-up, ou une ONG, ou un
club
de foot.
Pourquoi j'ai pas rejoint la fonction publique française,
ouais, et exactement, c'est la question qui me taraude depuis le début de ma vie. Et donc, il y a une jeune fille qui me répond à un truc que je trouve très juste et qui me dit, vous savez, quand votre État est menacé dans son existence même, le servir devient l'aventure la plus excitante possible. Et je pense qu'en fait, en expliquant que nos démocraties étaient éternelles, en croyant à cette fable, eh bien, nous avons délégitimé le service de la démocratie et le service de l'État. Si tout va bien, s'il n'y a aucun problème à l'horizon, alors pourquoi on a besoin d'un État? Pourquoi on a besoin d'une police? Pourquoi on a besoin d'une armée? Pourquoi on a besoin de servir son pays? Puisqu'en réalité, les choses avancent d'elles-mêmes. Il n'y a que à faire du commerce. C'est ça le truc. Il faut faire du commerce et tout ira bien. Et donc, les gens les plus audacieux, les plus aventuriers, les plus originaux... Ben, ils n'ont pas été servir le public, ils ont été vivre leur vie, mais parfois au service de l'autre, hein, dans des ONG humanitaires ou dans des où ils sont devenus artistes, où ils ont créé leur entreprise, où ils ont créé leur groupe de musique. Mais le service du public, le service du bien commun, ça n'avait plus la même importance puisque de toute façon l'histoire était finie. Et ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est d'essayer de comprendre comment la prise en compte de la menace peut nous conduire à revitaliser nos démocraties. Et c'est vrai de la menace climatique. c'est vrai, de la perspective de l'effondrement climatique comme des menaces sur notre survie, sur notre sécurité, comme des menaces de guerre. Toutes les crises qu'on traverse, en fait, exigent de nous que nous réinvestissions cet espace public et que nous retrouvions en nous-mêmes le citoyen qui prend le pas sur l'individu. Et donc, ces crises doivent être aussi lues comme des moments où on retrouve finalement ce qu'on avait perdu. Et je vais terminer par une phrase, enfin un texte du pire mec, honnêtement, un des pires mecs sur cette terre, qui est Douguine, qui est un philosophe ultranationaliste russe, un des pères spirituels du régime de Poutine, mais en version hardcore, et qui a écrit un texte lunaire dans les années 90, et totalement visionnaire. Et il dit, vous pensez tous là que les démocraties occidentales ont triomphé, hein. Vous êtes tous en train de célébrer. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, donc la chute du mur, la chute de l'URSS, eh bien, ça marque le début du déclin des démocraties européennes. Alors, ça peut sembler un peu présomptueux pour un mec qui était en train de vivre l'effondrement de l'Union soviétique. Et il dit, à partir du moment où ces démocraties vont se considérer comme étant aussi naturelles que l'air qu'on respire, là, c'est moi qui dis, mais en réalité, on comprend que même l'air qu'on respire n'est pas vraiment naturel, hein, eh bien, elles perdront leur force et entameront leur délitement. Parce qu'en fait, la démocratie, c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas un état de fait qui perdure en soi, par soi. La démocratie, c'est un projet. La démocratie, c'est un combat. La démocratie, c'est une construction historique et politique. Et donc, si on n'investit pas la démocratie, eh bien, la démocratie, elle s'effondre. C'est comme ça que ça se passe. Si on ne nourrit pas, si on ne cultive pas la démocratie, eh bien, la démocratie, elle perd sa force, elle s'affaiblit, elle se délite, elle s'essouffle, et finalement, elle finit par crever. Et donc, il faut retrouver ça. On est devenu des démocrates par inertie. On est démocrate parce qu'on est né en démocratie et que c'est comme ça. Et nos dirigeants, ils sont des dirigeants démocratiques parce qu'ils naissent en démocratie, ils vivent en démocratie, ils accèdent au pouvoir en démocratie, donc pourquoi pas être démocrate ? Mais en réalité, on ne peut pas être démocrate par inertie, on doit être démocrate par conviction, par projet, par envie, parce qu'on pense que c'est ça qui est le meilleur système dans lequel on peut vivre et qu'il faut donc cultiver, améliorer, nourrir en permanence. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que si on prend au sérieux les périls qui nous font face, eh bien, on va revitaliser nos démocraties. Et on va redonner un sens et on va répondre positivement à la question shakespearienne, à la question d'Hamlet. Et on assiste aujourd'hui au début de ça. On en est au début de ça, à l'échelle européenne. Moi, j'ai vu la différence. J'ai vu la différence entre avant et après. Et pas simplement sur des questions de géopolitique. J'ai vu la différence dans la manière dont on approche la production industrielle, dont on approche l'autonomie de nos pays, dont on approche la question de la taxe carbone à la aux frontières de l'UE, dont on approche la question du bannissement des produits de l'esclavage, dont on approche la question du devoir de vigilance des entreprises. Il y a une prise de conscience là que le monde dans lequel on veut habiter, dans lequel on veut vivre, qui est libre, a besoin de nous. Et que sans nous, ce monde-là n'existera plus. Et donc, il y a besoin de cet investissement public-là. Et c'est le sens de ce vers, et je vais terminer par là, vous inquiétez pas, de ce vers de Hölderlin, qui est un poète allemand, qui dit « Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent ». Et donc c'est en regardant le péril en face, que ce soit sur la question écologique ou sur la question démocratique, qu'on va trouver en nous la force de se sauver.
Merci beaucoup, Raphaël Guzman, pour accompagner. On peut vous applaudir.